Culture et patrimoine. Une émission présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps, au cœur des anciennes civilisations. Bienvenue dans l'émission Culture et patrimoine d'Evelyne Padrino que vous avez une fois par mois. Aujourd'hui, c'est une émission exceptionnelle. C'est une émission qui parle des anciens et des étoiles, des anciens et de la connaissance des étoiles, de savoir comment ils observaient les étoiles et de quelle manière, depuis la nuit des temps, ils les observaient. Alors, bonjour Evelyne.
Bonjour, bonjour Patrice et bonjour à tous nos fidèles auditeurs que je remercie d'être toujours présents parmi nous. Et puis pour cette première de Culture et Patrimoine, eh bien recevez tous nos meilleurs vœux, mes meilleurs vœux de joie, de bonheur, de soleil et de tous les astres qui vous accompagnent sur ce beau chemin de 2024. Eh bien aujourd'hui, nous allons entreprendre un beau voyage. Un beau voyage sur la piste des étoiles sacrées des anciens dans cette émission qui s'est passée depuis les débuts de l'humanité. Hein, où les hommes, même les plus archaïques, ont toujours été fascinés par le ciel et ses messages, autant de jours, mais surtout de nuit, avec cette magnifique voûte étoilée, ses constellations, ses étoiles, son satellite que l'on nomme la Lune, et ses phases. Très tôt, à force d'observation, ils ont très vite repéré les signes du ciel, l'alternance des journées et des nuits, des concordances avec les saisons, les équinoxes et les solstices, les effets de la pleine lune sur les marées, les éléments, la nature, les naissances, etc. Les phénomènes météo aussi, les dérèglements climatiques, des plus légers aux plus catastrophiques et cycliques. Ainsi que l'étude des astres et des mouvements propres des étoiles, les constellations, les supernovas, les comètes, les astéroïdes et tout ce qui pouvait être observable à l'œil nu, ont permis de développer les premiers rapports par l'art rupestre, puis par les premières tablettes sumériennes, puis aussi le disque de Nebra, découvert en Allemagne, dont je reviendrai un peu plus tard. Mais tout d'abord en Égypte antique, des papyrus égyptiens tels que le fameux calendrier du Caire, daté de près de 3000 ans, mentionnent des données astronomiques historiques relevées par les prêtres chercheurs antiques. En effet, ces prêtres astronomes montaient tous les soirs sur le toit des temples afin d'observer les étoiles. Ils y consignaient scrupuleusement leurs observations en ce rapport sidérant spécifié en ce papyrus, et puis d'autres papyrus également. Il y fut mention d'une extraordinaire découverte de la variabilité de l'étoile binaire à éclipse d'Algol. Retenez bien ce nom-là, on le retrouvera un peu plus tard. Donc cette étoile particulière, qui est régulièrement occultée par son étoile double, même si elle est en fait un système triple. Elle est composée d'Algol A, la plus massive, d'Algol B, la plus lumineuse, et d'Algol C. Algol A et B tournent autour d'une et l'autre sans s'éclipser en totalité. Intrigante étoile dont la luminosité est, aujourd'hui encore, et était extrêmement faible, donc pratiquement impossible à observer à l'œil nu. Et pourtant, de nombreuses informations précises y figurent, vérifiées comme exactes depuis peu, avec tous nos moyens techniques avancés, les télescopes spatiaux et tout ce dont nous disposons, les astrophysiciens d'aujourd'hui ont vérifié ces données d'il y a plus de 3000 ans. Voyez comme c'est exceptionnel, comme c'est extraordinaire, dont on n'aurait pas dû avoir par ces prêtres ces précisions-là à plus de 3000 ans. C'est quelque chose d'étonnant, de sidérant. Une étoile qui est située en la fameuse constellation d'Hercule, considérée comme par hasard hautement sacrée en de nombreuses civilisations comme les Sumériens, les Égyptiens, qui eux, bien sûr, l'associer à Horus, car il n'est pas rare que dans les anciennes civilisations, on associait des étoiles ou bien des constellations, voire les deux, à des dieux principaux, à des dieux d'importance. Chez les civilisations précolombiennes, la constellation sacrée d'Hercule était considéré comme un dieu sans tête. Puisque vous la verrez sur Internet, notez-vous Constellation d'Hercule et vous irez découvrir comment elle est figurée par les étoiles. Elle figure le corps d'un homme avec des bras, deux bras et deux jambes, mais pas de tête. Donc là, eh bien, cette constellation sacrée était considérée comme un dieu pour ses prêtres qui, apparemment, offraient des sacrifices humains par décapitation à ce dieu Hercule, qu'ils nommaient d'une autre manière, hein, mais en tout cas qu'ils observaient chaque soir et dont il y avait des fêtes rituelles particulières à certains moments. Lors de grands troubles aussi et de cataclysmes dévastateurs, il fallait bien sûr qu'il y ait quelque chose pour provoquer ces rites particuliers. On ne les faisait pas comme ça. Il y avait des catastrophes, des choses qui faisaient que les dieux demandaient aux dieux d'ailleurs de se calmer, d'être cléments avec la population. Et donc, pour ce faire, ils offraient apparemment des hommes en sacrifice par rapport à cette constellation particulière. Un indice est visible, par exemple, gravé en bas de l'escalier cyclopéen de Chiquoquerua, au Pérou, longeant un précipice aux flancs abrupts et escarpés, comme vous le retrouvez à Machu Picchu. De la même manière, orienté face aux constellations sacrées d'Hercule, du lama sacré, du dragon et du serpent, pour ne citer que. Pour les Grecs, Hercule affrontait la constellation du taureau qui protégeait par sa force et sa bravoure les belles jeunes filles des Pléiades, dont leur père n'était autre qu'Atlas. Une constellation largement observée et sacrée en la plupart des anciennes civilisations et en Nauterre, ici en Gironde, ici en Nouvelle-Aquitaine. Des découvertes incroyables qui nous posent de multiples questionnements. Comment, en ces temps reculés, ces anciennes civilisations ont-elles pu tenir des observations aussi précises sans avoir à disposition, c'est ce que l'on nous dit, du matériel d'observation comme des lunettes, des jumelles, des télescopes, des longues vues précises? C'est étrange tout de même. En tout cas, c'est ainsi que nous le présentent nos chers livres d'histoire. Je vous laisse en juger par vous-même. Il est plus qu'évident pour moi... Il est plus qu'évident pour moi que des anciennes civilisations ont été bien plus avancées techniquement et technologiquement que nous le pensions. À mesure de découvertes, de plus en plus stupéfiantes et scientifiques commencent à changer leur regard sur le génie de nos anciens. Dès les prémices de l'humanité, les hommes ont réalisé des prouesses techniques afin de mieux observer les étoiles, réalisant des trous de visée dans les pierres levées, mais aussi créant des pierres trouées à tenir dans leurs mains. Ils ont initié et formé de manière orale, afin de laisser des indices aussi en leur peinture rupestre, puis sur des tablettes d'argile, des papyrus et autres supports, bien sûr, qui vont suivre l'évolution de l'humanité. Ces chercheurs des brumes des temps ont commencé à réaliser de nombreux calculs astronomiques et des observations complexes léguées à la postérité, serviront de base aux futurs scientifiques que nous sommes, mais aussi en passant par les Grecs, les Égyptiens et, comme le disait Patrice, les Arabes, etc., qui ont eu des connaissances exceptionnelles. Dont aussi les scientifiques de la Renaissance qui s'appuieront pour reprendre et poursuivre ces recherches et ainsi permettre à la science d'évoluer jusqu'à nos jours ou encore aujourd'hui. De nombreuses peintures rupestres, un peu partout dans le monde, semblent nous livrer des indices quant à ces références astronomiques observées dès la préhistoire. Bien que cette thèse, soutenue par de nombreux archéologues depuis le Xe au XXIe siècle, ont soulevé bien des critiques. Certains furent largement décriés, mis à la marge ou destitués de la communauté scientifique pour leurs travaux novateurs par les archéologues conventionnels. Certains chercheurs ont rassemblé un travail exceptionnel en la matière qui ouvrit de nouvelles conceptions quant à la connaissance et les messages légués par nos lointains ancêtres. C'est le cas de Marcel Baudouin, qui était médecin, homme politique, préhistorien, ethnographe du XIXe-XXe siècle. Au cours de sa vie, il a participé et étudié de nombreux sites de fouilles, des sépultures du néolithique et de nombreux sites sacrés. Il s'est également passionné sur certaines constellations, très fréquemment gravés sur les dalles de chevet d'allées couvertes, représentés dans l'art pariétal également de certaines grottes. Autres sites préhistoriques tels que les Pléiades, les Deux Ours, la constellation du Cygne, qui se nomme également la constellation du Nord, située aujourd'hui dans l'hémisphère nord. Il est écrit et a écrit de nombreux ouvrages passionnants relatant ses thèses, dont le Préhistoire des étoiles, les Pléiades au Néolithique, un de ses ouvrages. Il fut un des pionniers à ouvrir cette brèche d'interrogation judicieuse sur ces points ou cupules suggérant les formes parfaites correspondantes à des étoiles ou des constellations. Surtout qu'il faut se remettre dans le contexte de ces temps reculés, reconstituer le ciel de ces époques en tenant compte du phénomène des précessions des équinoxes et de l'axe de rotation de la Terre différencié qui ne pointait pas sur les mêmes étoiles polaires qu'aujourd'hui où nous observons l'étoile Polaris aujourd'hui. Voyez à quel point c'est complexe. Il y a 3000 ans, c'était l'étoile Tuban de la constellation Alpha du Dragon qui guida nos ancêtres. Le ciel qu'observaient nos ancêtres était très différent de notre époque. Il y a 4500 ans avant Jésus-Christ, le lever héliac des Pléiades coïncidait avec l'équinoxe du printemps et donnait donc la date des fêtes religieuses de la lumière retrouvée, de la fertilité, des cultures, du cycle d'abondance, etc. Alors qu'aujourd'hui, les Pléiades suivent la constellation d'Orion, l'étoile Sirius, qui reviennent chaque année en notre ciel, vers le 20-25 août à peu près, et font partie intégrante des constellations d'automne-hiver jusqu'à fin mai. Visible donc de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe de printemps et un petit peu plus, englobant le solstice d'hiver pour notre hémisphère nord. Vous voyez comme la carte du ciel était bien différente d'aujourd'hui. Entre 3000 et 2000 ans avant Jésus-Christ, un optimum climatique du chalcolithique étudié par les paléontologues a démontré que les températures moyennes du littoral méditerranéen était alors, à l'époque, supérieure à 5 degrés de celle d'aujourd'hui. Vous voyez, quand on nous parle de changement et de dérèglement climatique aujourd'hui, eh bien, il y a eu des cycles où ça s'est produit également. Donc, ainsi, en Méditerranée, en arrière-pays niçois, dans le parc du Mercantour, des peintures rupestres près du mont Bégaud ont été étudiées par de nombreux scientifiques et l'éminente astrophysicienne Sylvie Vauclair que Patrice a reçu plusieurs fois en ses émissions. Elle et ses confrères ont été frappés par l'évidence de rapports très probables entre les détails de points formant les Pléiades sur ces arts rupestres, ainsi que la relation avec l'équinoxe de printemps, même si pour Sylvie Vauclair, qui reste prudente, la prudence est de mise et que c'est encore difficile à prouver totalement. Thèse soutenue par Patrick Rocher, chercheur en mécanique céleste à la Sorbonne. En ses représentations, sur plus de 100 km², pas moins de 40 000 signes, 50 figures différentes avec des carrés sculptés, des cercles semblant similaires à ceux sculptés sur la fascinante pierre de Picampeau de Lussac, en Gironde, tout près de Saint-Émilion, dont je vous parlerai un petit peu plus tard, plus en détail. Et que je souhaiterais d'ailleurs réorganiser une sortie au printemps parce que c'est un site fascinant tant pour le réemploi par les hommes de l'âge de bronze de ce fragment de coteau calcaire qui a chuté et dont ils ont sculpté un bassin en forme d'utérus de la déesse mère, de la fécondité et de tous les cultes et rites, fêtes religieuses, des solstices, des équinoxes associés et bien plus encore. Présentant également deux trous carrés et deux trous circulaires de la même manière et des sillons qui ramenaient les eaux de pluie qui étaient des eaux sacrées, hein, puisqu'à ces époques-là, ils observaient des cultes des eaux, donc des eaux sacrées qui provenaient de la demeure sacrée des divinités dans un probable but de libation. Un site énergétique très fort où les troncs des végétaux, des arbres, qui ont poussé contre cette pierre se sont comme ventousés dans le minéral, ils se sont carrément, mêlés entre le minéral et le végétal, on ne fait même plus de différence, c'est vraiment exceptionnel. Une forêt qui conserve bien des mystères, avec des sortes de sépultures sur une partie du plateau supérieur, dont seules des pierres montrent une ouverture carrée très étrange, qui mériterait d'être étudiée d'ailleurs. Mais revenons-en à nos peintures rupestres du mont Bégo en Méditerranée. Des personnages ityphaliques, ce qui signifie au sexe masculin dressé, comme c'était fréquent à ces époques, sont différenciés des femmes, les hommes donc, par le symbole du carré, et les femmes par des anneaux, des symboles de cercle, comme on retrouve sur la pierre de Picampo, je le redis, donc avec ces carrés qui signifiaient donc tout ce qui était la terre, l'univers, l'homme, la matière, et le côté féminin, les cycles, la lune, par ces cercles. Vous voyez comme quoi les symboles nous amènent à une certaine compréhension. Ce qui pourrait expliquer ces trous d'ailleurs, et ces récipients sur cette pierre de Picampo de Lussac, mais aussi sur ceux de la Méditerranée. De nombreuses cupules reprennent la forme de certaines constellations sacrées en ces époques, ayant un incident sur les saisons où elles étaient observées, les équinoxes, les solstices associés. Mais surtout, déjà, la course sacrée du soleil, puisqu'ils étaient toujours situés d'est en ouest, avec bien sûr le paroxysme du sud. Voilà, donc, et les symboliques, bien sûr, religieuses associées. Ainsi, le lever du soleil était la victoire de la lumière sur la nuit, les ténèbres, la vie sur la mort, la renaissance et la résurrection, etc. Le sud était le paroxysme de l'astre d'or, l'ouest, son couchant pour un voyage nocturne au pays de la petite mort, où le jour, le lendemain, donc le matin, va rendre renaissance à cette vie qui repart. La barque qui conduisait les esprits des défunts sur l'océan primordial céleste, élevant les esprits vers le royaume des divinités en cette longue aventure vers une renaissance de l'astre du jour, le petit matin. En effet, certains auditeurs, vous devez être surpris de découvrir que nos anciens avaient de nombreuses conceptions religieuses, certains rites d'ailleurs et symboles religieux, très similaires à ceux des Égyptiens de l'Antiquité. Effectivement, ils avaient des similitudes dans leurs croyances, pas tout à fait les mêmes, réemployées, revisitées à leur civilisation, mais en tout cas, on découvre des similitudes, par exemple sur un site funéraire extraordinaire souterrain en Périgord vert que nous avons découvert, qui n'est pas en principe ouvert au public. Eh bien, en ce site-là, on peut trouver au fond de la grotte l'œil d'Horus et l'œil de Thoth représentés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors très probablement qu'ils ne nommaient pas leur dieu de la même manière que les Égyptiens, mais en tout cas, on y retrouve les mêmes symboliques. Et placé un à l'est et l'autre à l'ouest, tout est là, quoi. C'est vraiment fabuleux, c'est vraiment interpellant. Donc, vous voyez comme c'est vraiment passionnant tout ça. En effet, certains rites et symboles religieux très similaires à ceux des Égyptiens de l'Antiquité, les peuples du Néolithique, les Celtes plus tard, nous ont laissé des gravures symboliques surprenantes qui pointaient leurs grottes sanctuaires et temples religieux vers les mêmes orientations et constellations sacrées que les hommes préhistoriques et parfois, selon les populations comme les anciens Égyptiens et autres civilisations anciennes dans le monde. C'est à peu près similaire un peu sur toute la Terre à la même époque. C'est très interpellant et nous ouvre sur de nombreux questionnements. C'est très étonnant. Partons maintenant en Allemagne, à Nebra sur Unstrut, où le disque de bronze de Nebra fut découvert en 1999. Il fut daté de 1600 ans avant notre ère. Donc il a plus de 3600 ans. Il représente une carte du ciel nocturne, délimitée, comprenant les différentes phases de la lune, de la pleine lune à son croissant et à la nouvelle lune. On y distingue les Pléiades, qui sont formées et composées d'un amas de 7 points d'or et diverses étoiles ou constellations. Ce disque mesure 32 cm. Il est fait d'étain et d'or incrusté provenant de Cornouaille, tandis que le bronze, lui, est le constituant de ce bronze provenait de gisements en Autriche. Ce peuple ancestral n'hésita pas à voyager afin de se procurer des métaux particuliers et précieux à leurs yeux, traversant l'océan et bravant les kilomètres pour élaborer ce disque censé marquer les solstices sur un décor possible de voie lactée. Une merveille qui atteste que l'observation de la voûte étoilée était fréquente au néolithique. Voyez comme c'est exceptionnel. N'hésitez pas à noter disque de Nebra et aller vérifier sur Internet, aller voir les images et découvrir ce site du néolithique qui est vraiment fascinant. Partons maintenant en Dordogne, au Périgord noir, plus précisément à Lascaux, où Chantal Jegg-Volkevitch interpréta judicieusement les peintures rupestres de taureaux, arborant des points caractéristiques représentatifs de constellations comme les ours, hein, grandes et petites ours, longtemps décriées par ses pairs. Elle a écrit de nombreux livres présentant ses théories, comme le livre sur les chemins étoilés de Lascaux, qui, lui, aujourd'hui, ouvre des perspectives exceptionnelles et trouve davantage d'écho, parce que jusqu'à présent, elle a vraiment eu un parcours très difficile où elle a été même carrément détrônée des archéologues, mise à la marge, alors qu'elle avait fait un travail qui ouvrait des perspectives exceptionnelles. Donc maintenant, poursuivons notre périple en Périgord vert. Partons pour Possac et Saint-Vivien, où se trouve le dolmen de Peyre-Dermal. Une merveille sans mots, sans nom, sans adjectif, je ne peux pas l'expliquer. En un espace naturel magnifique, il faut le voir pour le découvrir. Au centre d'une clairière, mi-végétale, mi-minérale, comme surgissant du passé, un dolmen mystérieux émerveille les randonneurs et visiteurs. Il offre une porte sculptée à 65 cm de profondeur, mais pas que, en perspective, à l'intérieur de cette porte. Sur la face avant de ce dolmen, offrant une porte acoustique étonnante et une portée surtout acoustique étonnante sur cette porte. Lorsque quelqu'un s'installe accroupi ou comme il le peut, puisqu'il faut être un petit peu accroupi, puisque c'est 65 cm de profondeur, mais c'est à peu près un mètre de haut. Donc il faut s'accroupir à l'intérieur. Et là, si vous parlez, vous chantez ou vous portez la voix, eh bien vous allez voir que cette porte a été gravée pour une certaine acoustique et qu'en fait, la personne qui était à l'intérieur, prêtresse ou prêtre, n'avait pas besoin de porte-voix. C'est extraordinaire. Donc on a découvert ça en faisant des recherches sur ce lieu. Et vraiment, c'est fabuleux, quoi. Voilà. Donc, elle est surmontée d'un trou à offrande sur le rocher supérieur, le surmontant. Il y a carrément une sculpture, ça a été carrément taillé à même la roche pour créer comme cela un trou à offrande où les gens pouvaient venir prier ou se retrouver en ce lieu et puis déposer à la pierre des offrandes dans ce trou-là. Une porte à l'arrière donne l'accès à une sépulture. Vu de l'arrière, cet ensemble compose un étonnant sphinx animalier et quand on le regarde un petit peu plus loin, on se rend compte qu'on pourrait penser que ce serait carrément une sorte d'éléphant ou un mammouth qui aurait été sculpté à l'époque. Aujourd'hui, c'est tellement érodé que c'est difficile, mais on voit bien cette tête magistrale, cette tête gigantesque avec, c'est comme deux oreilles de chaque côté qui forment vraiment comme une sorte de mammouth. Voilà, et pourquoi pas, mais enfin, c'est vrai que c'est très très intéressant. Donc, ces éléphants ou ces mammouths, peut-être alors sacrés en nos contrées, et dernier témoin de cette espèce, car elle aurait disparu entre 6000 et 4000 ans selon certains chercheurs. Donc il y a forcément eu des mammouths, probablement sur nos terres également, à cette époque-là. Un dolmen probablement taillé à même un rocher naturel situé sur un plateau calcaire dur, mais dont la partie supérieure a dû être surmontée. Là, comment ? Par quels moyens techniques à cette époque-là ? Cela reste un grand mystère car ce sont des milliers de tonnes à lever, caler et repositionner en parfait équilibre avec tant à l'avant qu'à l'arrière. Un emboîtement parfait dont les hommes du néolithique maîtrisaient et nous posent bien des questionnements aujourd'hui. Aurait-il été muni d'outils, de leviers, de systèmes de levage ou de techniques particulières ? En tout cas, encore aujourd'hui, le temps s'est arrêté sur ces vestiges, juste érodés partiellement par la mémoire du temps. sur la dalle calcaire naturelle sur laquelle est situé ce dolmen. Un bassin alimenté par des sillons sculptés sur le corps de ce sphinx et d'un probable mammouth érodé de roche ramène les eaux du ciel, de la demeure des divinités, du monde de l'invisible, des pluies sacrées, vers une cuvette vouée au soleil à son paroxysme plein sud. Lorsque l'on monte sur le dos et la partie supérieure de la pierre principale, nous pouvons découvrir une grosse cupule de la lune, tout comme celle au sol, nommée, ces cupules-là se nomment également des pierres à bassin ou des écuelles. Elle est constamment remplie d'eau, apportée judicieusement par des sillons gravés au coin des oreilles de cette tête massive, passant par une sorte de svastika gravé qui, en fait, si on observe bien, lorsque j'y suis montée, je l'ai repéré tout de suite, elle représente la constellation du Nord ou la constellation du Cygne avec toutes vraiment les précisions d'un bras plus court, courbé, etc. Tout y est pour vraiment figurer cette constellation particulière et qui était bien sûr d'importance pour nos ancêtres. Constellation se trouvant près de Cassiopée, le long de la Voie lactée, comme un écho à ce disque de Nébra également dont je viens de vous présenter. Ce bassin n'est jamais asséché, même en période de grosse chaleur. Il est tel un témoin pour déterminer les sécheresses extrêmes s'il s'en trouverait asséché. Si vraiment un jour vous voyez cette cupule asséchée, eh bien ça veut dire que nous sommes dans une période de sécheresse intense. À proximité se trouve une cupule allongée où une étoile et un croissant de lune y sont gravés au fond. Un second croissant de lune est également gravé sur la paroi qui lui fait face, à l'arrière de cette tête, de cette sorte de tête sculptée, indiquant un culte des eaux évident et de la lune, ou l'importance de cet astre d'argent, représentant également le féminin sacré, la déesse mère, la femme et son importance comme initiatrice de vie, de futur, de la fertilité, de la procréation, de l'abondance et de ses influences, mais aussi sur les cultures, par la lune, les marées et bien plus encore. Ce dolmen, de par son orientation, est également un calendrier des solstices et équinoxes, un lieu sacré pour célébrer les fêtes religieuses associées, de commémoration et de devoir de mémoire pour ces personnages d'importance, probablement inhumés en dessous, tels pour eux des saints reposant sous ce mausolée aux multiples fonctions de jour et de nuit, car il pointait face aux constellations sacrées. Voyez comme les étoiles, les astres de jour et de nuit avaient une immense importance. Le positionnement ou le choix d'un site se faisait avant tout en fonction de son orientation de jour et de nuit. Parfois, des cupules aux formes suggestives marquaient les constellations et étoiles correspondantes aux saisons sacrées associées, consacrant le site soit aux équinoxes, soit aux solstices. Ainsi, les saisons intermédiaires du printemps, correspondant à la lumière renaissante, puis de l'automne, annonçant l'hiver proche, la gestation de la déesse mère, la lumière affaiblie, le froid rude et son cortège de pluie, de neige, d'épreuves hivernales à affronter. La position des constellations d'hiver dans le ciel d'août annonçait alors l'arrivée d'un automne et l'hiver imminent. Ainsi encore aujourd'hui, vers le 25 août, les constellations d'Orient, les Pléiades, se positionnent dans notre ciel, à l'est, au milieu de la nuit, visible à 5-6 heures du matin, avec Sirius scintillante. Ces étoiles et constellations d'hiver poursuivront leur course d'est en ouest, pour disparaître de notre ciel fin mai et réapparaître dans le ciel de l'hémisphère sud, donc aux dates du 25 août et ainsi de suite, laissant à leur place au ciel et aux étoiles d'été et son fameux triangle d'été. Visitons maintenant l'allée couverte de Roquefort à Lugasson en Gironde, la plus longue de la région, dans un parc du château du même nom. La dalle de parement présente des cupules qui semblent former au fond donc de cette allée couverte l'amas des Pléiades aux 7 portes sacrées à franchir afin d'atteindre la demeure des dieux et le repos éternel. Des orthostates latéraux forment un chemin ouvert invitant les visiteurs à se connecter au pas de nos ancêtres qui ont arpenté des siècles durant avant nous. Eh bien, alors les orthostates, je vous précise que ce sont donc les plaques de roche qui sont latérales hein, sur les chemins, sur les côtés de cette allée couverte. Je l'ai peut-être expliqué, mais je veux que ce soit plus fluide pour vous, plus facile à comprendre. À quelques kilomètres se trouve le dolmen allée couverte mégalithique de Curton à Jugazan, en Gironde également, juste à côté de celui de Roquefort. Des gravures érodées sur la dalle de parement témoigne d'une carte du ciel très intéressante, suffisamment visible et décelable grâce à l'illustration de l'abbé Labrie, curé de l'Entre-deux-Mers, à Lugasson et Frontenac. Un homme de science, un homme d'archéologie de 1867 à 1927. La gravure qu'il nous a laissée, puisqu'aujourd'hui c'est assez érodé, mais on arrive quand même encore à bien distinguer, surtout si on a la gravure sur notre portable par exemple, et on peut différencier, là on voit vraiment bien réapparaître ces formes érodées. Cette gravure nous permet de distinguer encore aujourd'hui deux cercles, dont un surmonté de rayons, qui nous démontre le soleil, le roi soleil. Le second, probablement mis pour la lune, car lui, c'est un cercle tout simple. Entre les deux, un arc de cercle, comme un fer à cheval, ou plutôt un croissant de lune aussi, mais aussi une forme particulière que l'on retrouve sur plusieurs édifices mégalithiques de la région, en France, en Bretagne, sur une dalle de la tombe en couloir du Manélude à Locmariaquer et sur la table des marchands de cette même commune du Morbihan. En Europe, on en retrouve également en Espagne des symboles similaires qui ont été découverts sur le dolmen d'Espinaredo en Corogne, aux Asturies, sur une dalle de la tombe mégalithique également de Coroa à Abamia, entre autres sites et pays, parce qu'on en retrouve en d'autres endroits, bien entendu. Là, je ne fais que vous citer certains lieux où on peut retrouver ces gravures particulières caractéristiques. Ce fameux fer à cheval représentait pour moi la constellation de la couronne boréale ou Corona Borealis, qui est constituée également de 7 étoiles en couronne, à ne pas confondre avec les Pléiades qui, elles, sont 7 points en amas. Voyez comme quoi chaque symbole a son importance. Cette constellation Corona Borealis est située à proximité de la constellation du dragon et de celle d'Hercule, dont je vous ai dit de bien retenir tout à l'heure, qui forme également un carré central et qui fut une constellation, comme je l'ai expliqué un petit peu plus tôt, des peuples mégalithiques de notre région, de France, et de nombreux autres pays de la Terre, de nombreuses autres cultures de la Terre. Une autre candidate encore plus évidente, et là, je pense que je touche du doigt quelque chose, la constellation de Pégase, ou autrement nommée Grande Croix, est probablement celle représentée gravée sur la pointe de la dalle de parement, en sa partie haute, dont le losange en cette partie haute supérieure semble attester cette probable constellation sacrée malgré le temps et l'érosion. Une forme qui suggérait déjà un triangle pointe en bas qui signifie pour les anciens le pubis, le symbole du féminin sacré, de la fertilité, de la déesse mère, dont le culte est associé à la lune, à ses phases, et qui est souvent représenté sur les gravures des grottes ou des peintures rupestres ou de nombreux ensembles que l'on peut retrouver de l'époque mégalithique, offrant plusieurs lectures, bien sûr, et interprétations possibles ou associées. Revenons à cette constellation de Pégase, qui, elle, est un astérisme, ce qui signifie qu'elle est composée, qu'elle compose une figure géométrique remarquable. Elle est formée d'étoiles brillantes et repérables à l'œil nu. Donc là, on a quelque chose que nos anciens auraient pu très bien repérer. Bien sûr, sans pollution lumineuse, comme en ces temps passés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Il faut vraiment se rendre dans des lieux de la campagne profonde pour avoir un ciel que l'on puisse observer de telle manière. D'ailleurs, la plupart des anciennes civilisations ont suivi ces constellations particulières comme un point de repère précis, devenu sacré et fréquemment associé à des divinités. Ainsi, ce carré de Pégase, non entouré d'étoiles visibles, il était vraiment un carré au milieu du sombre de la nuit, du ciel assombri de la nuit, il n'y avait pas d'étoiles sur son pourtour. Il fut un repère majeur et de choix de la voûte céleste, car il appartient à un immense alignement qui effectue un tour complet de la Terre en une année. Donc voyez qu'entre être un repère majeur, situé dans la voûte céleste, dans un endroit où on ne peut pas le rater, on ne peut que le repérer facilement, même à l'œil nu. Donc c'était une constellation de base qui a été choisie pour être une constellation de repère, mais aussi qui effectuait un tour complet de la Terre en une année. Donc c'était parfait pour les anciens. Ils n'avaient qu'à se repérer à cette constellation particulière pour pouvoir la placer justement en haut de cette pierre qui est en forme oblonde un peu, mais avec un haut pointu, et qui donnait vraiment, suggérait vraiment un repère. Ce carré est vraiment tel qu'un repère. Donc il est un candidat sérieux qui confère à cette pierre également une fonction calendaire, puisqu'il permettait de se repérer sur les jours, les mois, les semaines, les années, mais aussi des équinoxes, les solstices, et pouvoir déterminer ainsi les fêtes religieuses importantes et tout ce que les hommes de ces époques mégalithiques avaient besoin grâce à cette pierre-là. Ils avaient un repère extraordinaire qui pointait vers cette constellation donc de Pégase.
Alors, on va faire une petite... parce qu'on ne l'arrête plus, Evelyne, quand elle parle. C'est impressionnant, c'est-à-dire que c'est un train qui fonce, un train qu'on n'arrête plus. Alors, c'est très intéressant parce que, en fait, vous découvrez avec Evelyne, vous découvrez toute la vie, toute l'histoire des étoiles depuis le commencement où les hommes ont débuté avec les connaissances qu'ils avaient, l'observation du ciel. Et on remonte dans le temps, en fait, on remonte jusqu'à une époque antérieure à la naissance du Christ, donc une époque très reculée, et on voit comment les anciens observaient le ciel, et de quelle manière ils l'observaient, avec quels moyens ils avaient, et des moyens qui sont certainement plus évolués que ce qu'on nous a bien enseigné jusqu'à maintenant, parce que ces anciens avaient des connaissances extraordinaires. Et puis... on ira faire, je pense, un petit voyage, peut-être avec Evelyne, je ne sais pas, dans le Moyen-Âge et dans la Renaissance, où effectivement on avait des connaissances et des observations des étoiles qui ont progressé avec le temps, et des appareils, des télescopes, etc. Puisqu'on parlera, moi je vous parle de quelqu'un que je connaissais, qui s'appelle Giordano Bruno, qui était un astronome à l'époque du Moyen-Âge, qui a été traité d'hérétique par l'Église, bien entendu, et qui a été brûlé sur le bûcher parce qu'il ne voulait pas abjurer qu'il s'était trompé. Et en fait, il avait les connaissances de ce que nos astronomes aujourd'hui ont en connaissance, c'est-à-dire les connaissances d'aujourd'hui qui disent que l'univers est immensément grand, que les planètes tournent autour d'étoiles et que des systèmes solaires comme le nôtre, il y en a partout dans l'univers et que l'univers regorge de vie. C'est les connaissances qu'avait au Moyen-Âge Giordano Bruno, que je vous cite, qui sont les connaissances d'aujourd'hui. Et donc, le clergé, à l'époque, ne voulait pas reconnaître et disait qu'il y avait parjure par rapport à ces connaissances-là. Et donc, beaucoup de scientifiques ont malheureusement, à cause de l'Église, brûlé sur le bûcher. Et malheureusement, c'est une triste vérité. Et donc, il faut le citer aussi, il faut citer ces hommes qui sont morts pour la gloire d'avoir voulu dire la vérité au grand public. Voilà.
Voilà. Eh bien, nous allons repartir sur ce voyage et repartir également à nouveau encore sur cette pierre extraordinaire de Curton qui recèle des trésors de gravures, de compréhension, des choses extraordinaires. Alors là, eh bien, nous repartons sur cette pierre qui, par cette constellation de Pégase, qui, je le répète, était un repère majeur sur la voûte céleste, mais aussi qui effectuait ce tour complet sur une année. Donc, du coup, eh bien, elle permet à cette pierre de devenir carrément une roue du temps. On parlait de la roue du temps celtique aussi, où les druides observaient donc des études de cette roue du temps, des cycles, de l'année. Et c'était des choses extrêmement passionnantes. Et donc, cette roue du temps précise était là, tel un calendrier extrêmement précis également, mais aussi un cadran solaire ou un gnomon, puisque bon, à ces époques reculées, on ne parlait pas de cadran solaire, il n'y avait pas de tige au milieu pour pouvoir montrer donc l'ombre du soleil. Mais par contre, la pierre elle-même profilait une ombre au sol qui renseignait nos anciens du cours du soleil, de son lever au paroxysme, vers son déclin. Et ainsi, ils savaient à peu près où ils en étaient, si c'était l'heure de rentrer pour aller déjeuner, ou si c'était l'heure que, ou le soir va arriver, dépêchons-nous, vous voyez. Ils avaient une idée, rien qu'en jetant un petit œil à ces pierres-là, ils savaient où ils en étaient de leur journée, des mois, de l'année, etc. Alors donc, si c'est le cas, ça nous permet de comprendre que cette plaque-là n'était pas placée comme, enfin pour moi du moins, comme le pensent les archéologues, et fermée carrément l'allée couverte. D'ailleurs, elle n'est pas située au bout de l'allée couverte, elle est en recul, en décalé derrière. Et en fait, je pense qu'elle a toujours été placée en décalé pour pouvoir justement permettre à ces prêtres astronomes de pouvoir étudier le ciel, de pouvoir s'en servir de repère, mais aussi de pouvoir s'en servir donc de roue du temps, de calendrier, de gnomon et de tout ce que ça concerne. Donc à mon avis, il y a vraiment, je pense que cette pierre-là a été positionnée de manière parfaite, de manière à justement avoir cette fonction-là. Des fonctions que possédaient également les cromlechs, entre autres, dont là aujourd'hui je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout cela, mais il y aura d'autres émissions pour le faire. Mais en tout cas, toutes ces fonctions-là étaient également associées aux cromlechs, qui sont des cercles de pierre, parfois uniques, parfois doubles, parfois triples. C'est extrêmement intéressant. Alors, d'après mes analyses personnelles, je pense que c'est cette constellation de Pégase qui paraît la candidate plus probable pour signifier cette forme de carré plutôt en losange sur cette partie supérieure de cette pierre. Donc voilà, en guise de repère. La constellation Corona Borealis dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en forme de couronne, se trouvant à proximité comme par hasard, gravée également, permet de la déterminer, de la découvrir, puisque c'est un indice supplémentaire pour nous situer. Voyez, ici, nous avons gravé la Corona Borealis pour que vous compreniez que, eh bien, il y a le soleil, la lune, mais il y a aussi la constellation de Pégase, là-haut, et comme ça, ça nous permet de déterminer comme un rébus sur cette carte du ciel de l'époque, malgré les déplacements des étoiles et des constellations par rapport à aujourd'hui. Nos ancêtres nous ont laissé suffisamment d'indices pour lire aujourd'hui ces gravures, malgré l'érosion qui a effacé certains autres. Je voudrais également revenir sur cette constellation Corona Borealis, qui aujourd'hui ne rentre dans notre ciel qu'à peu près au mois de mars. Eh bien, sachez que lorsque le virus du corona, puisqu'au départ on l'appelait corona, donc en 2020, quand on nous a annoncé cette pandémie, eh bien, comme par hasard, la constellation Corona Borealis entrait en notre ciel. Voilà, donc je voulais faire cette petite aparté parce que, eh bien, cette constellation peut-être annoncer des choses, je ne sais pas quel est le rapport ou la synchronicité, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très étonnant parce que ce virus a été appelé le virus Corona et, bien sûr, la constellation entrait à ce même moment dans notre ciel. Donc, il y a peut-être quelque chose à comprendre à ce niveau-là. En tout cas, c'était une constellation qui était choisie comme indice de repère pour nous, pour léguer à la postérité ces gravures. Des indices simples, selon leur conception à l'époque. Il faut toujours rester dans la logique de ces hommes, voir les choses avec leurs propres yeux, essayer de comprendre ces indices selon leur conception, selon leur grande connexion à la nature, aux éléments, aux astres qui les entouraient. Pour moi, il est juste et bon de comprendre ces messages en les remettant dans leur contexte et leurs yeux, afin d'essayer de les décrypter. Je vous laisse juger par vous-même, hein. C'est à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous intéresse, ou ce que vous, si vous acceptez ces propositions ou pas. Voilà, on est libre, chacun est libre, mais bon, voilà ce qui émane de mes recherches personnelles. De plus, Pégase passe par l'étoile binaire d'Algol, très curieusement, très observée par les anciens astronomes et les prêtres astronomes de l'ancienne Égypte, dont je vous ai présenté en introduction tout à l'heure. Voyez comme quoi il y a quand même pas mal d'interpellations. Un orthostate latéral terminant l'allée couverte sur la droite représente un lièvre sculpté carrément dans la pierre. Hein. Alors il faut se mettre un petit peu à l'écart, reculer, et puis voir la forme de cette pierre très particulière qui représente un lièvre, je pense, puisque le lièvre était très sacré en nos terres de Gironde et puis en de nombreuses régions de France également. Eh bien, vous le voyez parce qu'il est représenté avec une forme toute douce, avec des longues oreilles qui se profilent, un petit visage et son petit corps bombé, très érodé aujourd'hui, mais qu'on arrive quand même à reconnaître. Et le lièvre sur nos terres était un animal sacré associé à l'équinoxe de printemps, à la fertilité, que l'on retrouve à cette époque en notre région sur des anciennes pierres levées de taille plus modeste. Il y en avait une, je crois, à Saint-Sulpice-de-Falérens. Aujourd'hui, on ne la retrouve plus. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette petite pierre, mais elle était en forme de lièvre également. On la retrouve sur Internet chez certaines personnes qui ont laissé des articles justement parlant de ces pierres levées particulières. Et donc, j'ai pu avoir la chance de la voir, effectivement, et aujourd'hui, je ne sais pas où elle est. Elle n'existe plus sur la commune, je ne sais pas où est-ce qu'elle a été située, ou peut-être elle a disparu, ou je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est interpellant parce qu'il y en a eu plusieurs en Gironde. Sur sa face interne, à l'intérieur de l'allée couverte, de l'autre côté de ce lièvre, eh bien là, c'est une autre forme qui apparaît. C'est curieux parce qu'il y a le corps du lièvre, mais que ce corps du lièvre va servir à profiler une autre figure qui, elle, présente un œil et la forme suggérée d'un bovidé, mais plutôt d'un bison sacré. Pourquoi ? Parce que, en fait, la croupe du lièvre va servir de bosse à ce bovidé qui, du coup, devient un bison. Vous voyez comment on peut arriver à comprendre un peu ces messages. Et cette bosse dorsale pourrait évoquer justement la marque probable d'un culte observé à cette époque, dont de nombreuses représentations rupestres sont fréquentes et attestent de ce caractère particulier. On retrouve aussi ces bisons sacrés dans la grotte de Père Nanterre. Il y a plusieurs endroits où on retrouve ces bisons sacrés, à Lascaux, enfin voilà. Donc on est quand même sur quelque chose d'interpellant. Ce qui semble frappant en cette carte du ciel du paléolithique ou du néolithique, c'est qu'elle positionne les constellations bien différemment et montre une voûte étoilée complètement dissemblable à celle que nous observons aujourd'hui, explicable par la précession des équinoxes et les cycles de Milankovitch, ce qui rend cette carte du ciel tout à fait réaliste. Ainsi, la précession des équinoxes provoque un long changement de direction et un déplacement de l'axe de rotation de la Terre dans la direction perpendiculaire à son axe et au couple par les forces des marées de la Lune et du Soleil sur le léger renflement équatorial. Ce déplacement est nommé précession et produit une sorte de cône ou une sorte de toupie qui oscille dans son tour complet, s'effectue en 26 000 ans environ, 25 800 à peu près, puisque la Terre n'est pas une science exacte, elle ne répond pas exactement à un an près. Mais bon, voilà, ça se situe entre 25 800 à 26 000 ans à peu près. Par conséquent, de ce déplacement, les étoiles de la voûte céleste n'ont plus la même position, Actuellement, notre étoile polaire est Ursae Minoris ou Polaris. Il y a 3000 ans avant Jésus-Christ, ce fut Tuban de la constellation Alpha Draconis ou du dragon qui guida nos ancêtres et d'autres grandes civilisations comme les Égyptiens. Il y a 12 000 ans, ce fut le tour de Vega de diriger les voyageurs. Elle sera de nouveau notre étoile polaire dans 12 à 14 000 ans. Voyez comme notre ciel évolue, change, et dont ces précessions des équinoxes permettent à la vie de se poursuivre, mais avec une nouvelle voûte à chaque fois, une nouvelle voûte donc, du ciel. Lors de la préhistoire, il y a 17 000 ans, à l'époque où les artistes rupestres de Lascaux nous léguaient leurs chefs-d'œuvre sur les parois rocheuses de cette grotte, c'était l'étoile bleue d'Eneb, d'Alpha Cygni ou de la constellation sacrée du signe de la Croix du Nord, comme on la retrouve gravée sur le dos du dolmen de Peyrnermal. Elle sera à nouveau l'étoile guide dans 10 000 ans. Voyez comme ces gravures et les indices qu'elles recèlent sont précieux, car elles nous livrent des informations importantes quant à ces cartes du ciel qui diffèrent selon les époques. Une autre pierre, non connue du grand public, sur la commune de Puisseguin, face au château d'Éloré, nommé Pierre d'Éloré, qu'on a découvert et on était allé faire des sorties sur tous ces lieux-là qui sont passionnants et fascinants. Et nous nous sommes arrêtés sur cette pierre d'Éloré qui porte également des gravures intéressantes et des cupules liées aux constellations de l'époque du bronze. Une autre sorte de croix, de svastika, y est sculptée avec des caractéristiques parfaites de la constellation de l'aigle. Attention à ne pas confondre avec la croix du Nord ou la croix du Cygne. Elles sont très similaires, mais pourtant comportent des différences, dont dans les branches, dans les bras, qui sont beaucoup plus horizontaux et pointent vers le haut, alors que la constellation du Cygne, elle est beaucoup plus à l'horizontale et ont des différences entre la gauche et la droite significatives. Elle représente à sa tête trois étoiles dont la dernière est décalée comme le baudrier d'Orion. Voyez, vous en avez deux qui se suivent et puis la petite troisième qui est un petit peu décalée, exactement comme la constellation d'Orion. Donc après, il faut bien faire attention aux interprétations parce qu'on peut se tromper avec la constellation d'Orion, s'y mêler, mais aussi on peut se tromper également avec la constellation du Cygne. Tout ça est à vraiment bien étudier et après à faire des calculs astronomiques et à retrouver les ciels d'antan de l'époque, hein, puisqu'il faut calculer toutes les précessions des équinoxes, les voûtes du ciel, comment les anciens les observaient à ces époques éloignées pour ne pas se tromper. Vous voyez à quel point, quand on vous dit telle et telle et telle pointe sur la constellation d'Orion, êtes-vous sûr? Parce que ça pourrait être aussi la constellation donc, de l'aigle. Donc après, à refaire toutes ces recherches pour être bien sûr et pouvoir bien comprendre tout ce que les anciens nous ont laissé.
Il nous reste trois minutes d'émission. Est-ce qu'Evelyne va avoir le temps de nous faire rêver encore un peu plus?
Aïe. Voilà, donc elles peuvent être largement confondues. Et alors, elle était une des constellations importantes et sacrées des Sumériens, des Mésopotamiens, des Égyptiens, des Grecs, etc. Cette pierre est située parfaitement sur les quatre points cardinaux que possèdent ces deux faces aussi, les plus larges, qui sont elles situées nord et sud. Elle est légèrement creusée afin de s'y lever côté sud. Elle était une pierre donc aux vertus guérisseuses, propice à la fertilité, surtout sur la face, bien sûr, plein sud, baignée par le paroxysme du soleil. Lorsque nous y avons organisé une sortie, elle aurait soulagé des personnes souffrant du dos qui se sont retrouvées apaisées, soulagées après s'y être adossées un moment au soleil. Donc après, voilà, mais en tout cas, c'est très intéressant. Alors, dans le monde de la préhistoire au néolithique, les hommes ont laissé des indices, des cartes du ciel qu'ils observaient afin de léguer à la postérité ces cartes célestes, ces événements célestes, mais aussi ces étoiles aux constellations sacrées, nous permettant de comprendre leurs conditions de vie, leur climat, ou les phénomènes célestes particuliers qui les ont marqués, effrayés par ces signes qui liaient à des messages, à de grands bouleversements climatiques, de nombreux mégalithes, dolmens, pierres levées et autres édifices ancestraux en France, en Europe et dans le monde, en toute époque confondue, nous ont laissé des pistes, des étoiles précieuses afin de comprendre ces mécanismes célestes, ces cycles, les saisons, les précessions des équinoxes, les fameux cycles de Milankovitch, passés et futurs, montrant des variations d'inclinaison de l'axe de la Terre et son excentricité orbitale et leurs liens évidents avec les variations climatiques cycliques. Les cycles de Milankovitch sont notamment utilisés dans le cadre de la théorie astronomique des paléoclimats. Ces changements climatiques naturels ont pour principale conséquence les périodes glaciaires et interglaciaires. La théorie des paramètres de Milankovitch s'applique à toutes les planètes, tout comme les changements climatiques actuels d'ailleurs, dont les astrophysiciens étudient de très près sans nous l'indiquer, mais ces changements climatiques se produisent sur toutes les planètes de notre système solaire. Ces témoins du passé gravés dans les pierres par nos ancêtres sont des marqueurs précieux afin de nous avertir en ce futur incertain ce que nous devrons affronter. Au cours de l'histoire, ces cycles se sont déjà produits et se reproduiront, forçant nos anciens à préparer les futures générations à faire face à ces changements, à tout ce qui devait se passer dans le futur. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il est fréquent de lire Préparez-vous, les temps de grandes famines et autres fléaux vont frapper à nouveau. Eh bien, voyez comment préparer les futures générations déjà à se préparer. Ces pierres oubliées et leurs messages commémoratifs nous livrent les secrets de notre futur portés par les astres, leurs déplacements, les éjections de masse coronale, les tempêtes ou tempêtes solaires, éprouvant la magnétosphère terrestre, les champs magnétiques terrestres, de possibles inversions des pôles, les réveils de volcans et supervolcans et bien plus encore qui ont participé à des changements notables de climat. Seraient-ils des indices cycliques des différents déluges d'eau et de feu que nos ancêtres ont dû affronter à diverses périodes de l'histoire des hommes et de la Terre ? Je vous laisse vous créer votre propre conclusion théorique. Rien n'était laissé au hasard. La situation des sites, leurs coordonnées GPS, leur situation géographique, de jour et de nuit, vers les constellations sacrées particulières, leur position sur les lignes mégalithiques ou les lines bien particulières et bien davantage encore sur les lignes énergétiques et tout ce qu'on peut étudier. Nos anciens nous ont légué des rébus que nous essayons de décrypter tout en essayant de mettre nos yeux dans leur regard d'antan. Et là, c'est pas évident. En nous penchant sur les écrits des textes des anciens, de grands scientifiques du passé, comme Théon d'Alexandrie, Hypatie, qui représente notre association, Ptolémée, Anaximandre de Millet et beaucoup d'autres génies qui marquèrent l'histoire par leurs travaux, fréquemment inspirés de grands autres maîtres en la matière ou de bien plus anciens encore. J'espère que ce survol de l'astronomie des anciens vous a intéressé. C'est un vaste sujet difficile à traiter en 45 minutes. Merci à vous tous pour votre présence sur les ondes de radio, de votre fidélité à culture et patrimoine, dans les portes de la connaissance de mon compagnon passionné et érudit qui vous propose différents voyages et thèmes chaque semaine. Merci à tous ceux qui sont des membres de notre association, qui nous soutiennent également. Prochain rendez-vous le vendredi 23 février sur les thèmes des cathares et des cagots en Aquitaine. En vous espérant fidèle au rendez-vous, je vous salue très chaleureusement.
Merci
beaucoup. Au revoir, amis auditeurs. À très bientôt.
Merci beaucoup, Evelyne. On va être obligé de rendre l'antenne parce que c'est le journal d'Ode Radio. Donc, on est en retard. On est en retard. On s'excuse. On a un peu de retard. Donc, on est obligé de rendre l'antenne. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté l'émission Culture et Patrimoine. Le prochain rendez-vous avec Evelyne, c'est bien sûr
23 février.
Voilà, ce sera très 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 passionnant certainement aussi. La prochaine émission, ce sera l'émission des portes de la connaissance où nous accueillerons normalement, si tout va bien, un responsable des Compagnons du Devoir qui nous parlera de l'institution des Compagnons du Devoir. Ou alors, on accueillera normalement, si nous avons l'honneur d'accueillir Yannatus Bertrand, certainement la chance de l'avoir sur les ondes de la radio. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup. Au revoir.
À bientôt, amis auditeurs.
Culture et patrimoine. Une émission présentée par Evelyne Padrino. Faites un voyage dans le temps, au cœur des anciennes civilisations.